France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Lorsque je suis arrivé en avion au-dessus de Panama, ce qui m'a le plus frappé très nettement, c'est d'avoir la première vision, pour la première fois au cours de mon voyage, des deux océans à la fois, de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Bonjour. Lorsqu'on prononce le nom de Panama, il n'est pas interdit de penser à un chapeau de paille. On admettra cependant que ce n'est pas la première idée qui vient à l'esprit, mais bien plutôt l'histoire d'un canal, le canal de Panama. Une histoire traversée par beaucoup de passion, de douleur et aussi beaucoup d'argent. Le sujet vient de ressurgir du fait des déclarations tonitruantes de Donald Trump. À peine entré en fonction, le 47e président des États-Unis a proclamé à son de trompe qu'il avait l'intention de s'emparer du canal. Il veut en refaire, comme naguère, un territoire directement états-unien. Il rebondit ainsi sur un propos de campagne de son prédécesseur, Ronald Reagan, en 1976, un propos qui pourtant avait pu paraître dépassé. Ce canal, disait-il, nous l'avons construit, nous l'avons payé, il est à nous et nous le garderons. Si l'on ajoute que le plus grand scandale de notre Troisième République dans les années 1890 porte le nom de Panama, on conviendra que ce sujet appelle la curiosité. Nous allons y répondre avec Jean-Yves Mollier, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Saclay, Versailles-Saint-Quentin. Il nous offre un ouvrage intitulé « Panama, un canal pour mémoire ». En réalité, il s'agit de plusieurs mémoires, souvent divergentes. Quatre pays au moins sont plus directement concernés. La France, bien sûr, puis les États-Unis, qui sont intervenus pour faire aboutir le projet après le naufrage de l'entreprise de Ferdinand de Lesseps, mais aussi en Amérique latine, la Colombie et le Nicaragua. Ces deux pays entretiennent un souvenir vivace qui leur est propre. Et à l'éventail de ces quatre mémoires spécifiques, il faut ajouter au premier rang celle des Panaméens eux-mêmes, et notamment les enfants des ouvriers antillais qui ont été les principaux constructeurs d'une réalisation si impressionnante et si disputée. Et afin de commencer par le rêve et la littérature, je vous propose d'abord un extrait du poème de Blaise Cendrars, « Le Panama ou les aventures de mes sept oncles », écrit en 1914, paru en 1918. Je rappelle que Cendrars était le fils d'un banquier suisse qui fut affecté par le scandale de Panama.
Des livres. Il y a des livres qui parlent du canal de Panama. Je ne sais pas ce que disent les catalogues des bibliothèques. Et je n'écoute pas les journaux financiers, quoique les bulletins de la bourse soient notre prière quotidienne. Le canal de Panama est intimement lié à mon enfance. Je jouais sous la table, je disséquais les mouches. Ma mère ne me racontait rien ce jour-là, et je restais triste sous ma table. Le crash du Panama est d'une importance plus universelle, car il a bouleversé mon enfance. J'avais un beau livre d'images et je voyais pour la première fois la baleine, le gros nuage, le morse, le soleil, le grand morse, l'ours, le lion, le chimpanzé, le serpent à sonnette et la mouche, la terrible mouche, maman, les mouches et les troncs d'arbres. Dors, dors mon enfant. Banquier, mon père perdit les trois quarts de sa fortune comme nombre d'honnêtes gens qui perdirent leur argent dans ce crash. Mon père, moins bête, perdait celui des autres. Coup de revolver. Ma mère pleurait. Et ce soir-là, on m'envoya coucher avec la bonne, anglaise. Puis au bout d'un nombre de jours bien longs, nous avions dû déménager. Et les quelques chambres de notre petit appartement étaient bourrées de meubles. Nous n'étions plus dans notre villa de la côte. J'étais seule des jours entiers parmi les meubles entassés. C'est le crash du Panama qui fit de moi un poète. Des milliers de Chinois sont morts où se dresse maintenant le bar flamboyant. Vous vous êtes enrichis en enterrant les colériques. Envoyez-moi la photographie de la forêt de chêne liège qui pousse sur les 400 locomotives abandonnées par l'entreprise française. Cadavre vivant. Le palmier greffé dans la banne d'une grue chargée d'orchidées. Les canons d'Aspinwall rongés par les toucans. La drague aux tortues. Les pumas qui nichent dans le gazomètre défoncé. Les écluses perforées par les poissons-scies. La tuyauterie des pompes bouchée par une colonie d'iguanes. Les trains arrêtés par l'invasion des chenilles. Et l'encre gigantesque aux armoiries de Louis XV dont vous n'avez su m'expliquer la présence dans la forêt.
Jean-Yves Mollier, bonjour.
Bonjour.
J'ai pensé qu'il ne serait pas malvenu de commencer notre conversation avec le regard rétrospectif d'un enfant qui est aussi un poète, le regard de Blaise Cendrars. Je rappelle que la ville à laquelle il fait allusion, Aspinwall, est un autre nom de Colomb, qui est le port qui ouvre sur la mer des Caraïbes. Et c'était une lecture due à la bonne grâce de notre réalisatrice d'aujourd'hui, Camille Mathy. Cette ambiance d'un moment de l'histoire collective vue par un enfant, elle vous touche,
Jean-Yves Mollier ? Oui, absolument, parce que Blaise Cendrars est suisse, mais il exprime d'une certaine manière les conséquences de la ruine de centaines de milliers d'épargnants. En France, il y a eu de nombreux suicides qui ont été rapportés par la presse.
Coup de revolver.
Coup de revolver, pendaison, toutes les manières étaient bonnes. Mais le plus important, c'est de bien comprendre qu'effectivement, il y a eu une sorte de panique générale à l'idée qu'on avait apporté ses économies, son argent, à une entreprise qui soudain disparaissait.
Et l'enfant sous la table ressent ça très fort tout en rêvant à ces pays lointains.
En tout cas, c'est ce qu'il rapporte ensuite.
En termes géopolitiques et en termes économiques, il faut bien montrer ce qu'a été ce prodigieux changement d'avoir percé cet isthme. Avant, il fallait passer par le sud. Jean-Yves Mollier.
Oui, de la même manière que le canal de Suez a permis d'éviter la descente vers le sud de l'Afrique, de la même manière, le canal de Panama a permis d'éviter la descente vers la Terre de Feu, vers l'Amérique du Sud, dans son point le plus extrême, là où on va vers l'océan Antarctique.
C'est un rêve très ancien.
Oui, depuis les conquistadors, depuis la conquête espagnole, on rêve de trouver la voie de passage vers ce qu'on appelle la mer du Sud, qui pour nous est l'océan Pacifique. Et d'ailleurs, effectivement, lorsque ces conquistadors trouvent ce qu'ils appellent la mer du Sud, eh bien, c'est pour eux, l'idée commence à germer qu'on pourrait trouver un chemin, creuser un chenal, un canal pour passer. Il faut bien comprendre que pour le commerce, pour les bateaux, il fallait descendre vers la Terre de Feu, dépasser le Cap Horn, puis remonter par Valparaiso, remonter tout le Chili, et puis remonter jusque aux États-Unis.
Donc on peut en fait regarder tout cela avec différentes focales, niveau quasiment planétaire, ou au contraire braquer l'attention comme nous allons le faire, en particulier sur le lieu même du canal et sur tout ce qui s'y exprime.
Pour prendre un chiffre simple, les bateaux qui viennent du port de New York et qui veulent aller dans le port de San Francisco en empruntant le canal de Panama vont gagner au moins un mois. Et je parle bien de bateaux à vapeur. Donc vous imaginez, si on avait pensé à la marine à voile antérieurement, ça aurait été deux mois qui auraient été gagnés. Donc c'était évidemment énorme. 4 à 5, voire 6 semaines de gagner en empruntant ce canal de Panama.
Considération spatiale et considération temporelle, on est en plein dans l'histoire. Alors pour nous qui sommes français, il faut commencer par ce scandale politico-financier sur lequel nous serons peut-être un peu brefs parce qu'il sera plus nouveau, plus neuf de parler de Panama là-bas. De Panama.
Oui. En deux mots, au fond, le scandale de Panama côté français, il peut se résumer avec des chiffres. 150 parlementaires, députés, sénateurs et ministres accusés à tort ou à raison d'avoir touché, d'être des chécards. 7 ministres... Deux d'entre eux ont réellement touché de l'argent. L'un était vivant, le ministre des Travaux publics, il ira en prison. L'autre était mort, c'est sa veuve qui remboursera.
C'est un Haussonnois qui va en prison.
Oui, c'est Charles Bayot.
Les Francs-Comtois en sont chagrins.
Absolument. Mais en même temps, L'autre chiffre que j'ai envie de citer, c'est le nombre de députés qui ne se sont pas représentés ou qui ont été battus aux élections législatives suivantes. Un tiers de la Chambre des députés a été renouvelé. C'est considérable et je crois que ça ne s'est jamais reproduit ni sous la 3e, ni sous la 4e, ni sous la 5e République.
Il est néanmoins indispensable de rappeler qu'à l'époque, l'État ne pourvoyait pas aux dépenses des partis politiques ou des élections. Par conséquent, il fallait bien que les acteurs, le personnel politique, aillent trouver des subsides ailleurs. Certains les utilisaient pour eux-mêmes, rares, minoritaires, et d'autres, évidemment, pour faire fonctionner la machine de leur activité publique. Je crois que c'est important de le dire, car sinon, on rejoint un certain nombre de pamphlétaires, notamment antisémites de l'époque, qui ont tâché de jeter un opprobre général sur le personnel républicain.
Oui, en oubliant au passage que la plupart des membres du conseil d'administration de la compagnie universelle du canal interocéanique de Panama, c'était son nom un peu long, étaient catholiques et protestants. Il y avait très peu de juifs à l'intérieur de ce conseil d'administration, mais il se trouve que les intermédiaires, effectivement le baron Jacques de Rénac, le Cornelius Hertz et puis un troisième larron étaient juifs et par conséquent on les a désignés à la vindicte populaire.
Je signale déjà que vous avez donné une très belle biographie de Cornelius Hertz qui est lobbyiste, nous dirions aujourd'hui, franco-américain à la belle époque. Vous évoquez la naissance de ce projet immense. Quelques précisions néanmoins sont nécessaires. Ça ne s'explique pas sans l'héritage, la suite, la trace du canal de Suez et du grand succès de Ferdinand de Lesseps.
Voilà. Au fond, c'est parce que Ferdinand de Lesseps, en 1869, était parvenu à ouvrir le canal de Suez à la navigation, qu'il était devenu en quelque sorte l'équivalent d'un super ingénieur, ce qu'il n'avait jamais été. C'était un diplomate de formation.
Un grand Français, dit Gambetta.
Un grand Français, dit Gambetta, et à juste titre, mais d'abord un diplomate. Quelqu'un qui avait su s'entourer effectivement d'ingénieurs compétents, d'entreprises compétentes dans le domaine du creusement d'un canal.
C'est déjà un grand mérite de s'entourer bien.
Absolument. 10 ans plus tard, il va commettre une erreur. Il est persuadé qu'il peut réussir la levée de fonds qui va être considérable sans le secours des banques et sans le secours de la presse. Et au fond, la première compagnie qu'il va créer, eh bien, elle échouera. C'est pourquoi, au fond, la deuxième entreprise, celle de 1880, celle qui va durer pendant 9 ans, cette entreprise va réclamer et obtenir le soutien à la fois des grandes banques françaises, le Crédit Lyonnais, la Société Générale, et le soutien de la presse. La plupart des quotidiens, la plupart des journaux vont effectivement soutenir l'entreprise.
Et des épargnants, du coup, 400 000 Français, dites-vous.
Alors, il faut distinguer, au départ, il y a un capital action, et puis ensuite, il y a 7 ou 8 campagnes de lancement d'emprunts obligataires qui vont faire qu'environ 400 000 Français vont apporter leur épargne. Et j'ajoute, pour l'essentiel, une petite épargne. Ils vont acheter quelques titres. Naturellement, les grandes sociétés ont acheté infiniment plus de titres, mais ce sont surtout les petits épargnants qui vont se trouver spoliés lorsque, 9 ans plus tard, l'entreprise, en février 1889, se déclare en faillite. C'est la fin d'une aventure qui a fait rêver en France et bien au-delà de la France.
Alors, pour nous porter à l'origine de ce grand rêve avorté, en tout cas du côté français, je vous propose cette évocation scénarisée qui s'intitulait « Panama ou le grand dessin de Monsieur Buno Varia ». C'est l'ingénieur Buno Varia. Une émission de Yannick Bourdoiseau qui avait été diffusée sur France Culture le 18 janvier 1999. On est là dans le congrès international d'études du canal interocéanique qui s'était tenu à la Société de Géographie à Paris du 15 au 29 mai 1879, à l'aube du rêve.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'entreprise dont nous allons débattre ici constitue sans nul doute le plus grand défi qui se soit offert à l'intelligence et aux efforts humains depuis l'œuvre de M. de Lesseps à Suez, bien sûr.
Bravo !
Si vous voulez bien apporter ici les documents, voici des cartes de l'isthme. Pour toutes sortes de raisons que j'aurai l'occasion d'exposer par la suite en commission, la seule solution qui nous paraisse réaliste est le creusement d'un canal à écluse au Nicaragua.
Je crois que M. Flachat veut poser une question à l'orateur.
En effet, je suis surpris que le tracé du Nicaragua puisse même être envisagé par M. Menocal. n'est-il pas beaucoup plus long que le passage de Panama ?
Il est plus long !
En effet, messieurs, en effet, près de 3 fois plus long. Mais il y a un lac au centre du Nicaragua qui diminue le trajet de 70 miles. Et les conditions géologiques du percement sont bien plus favorables qu'ailleurs, et qu'au Panama, par exemple. Et d'un point de vue pratique, c'est cela qui importe.
Monsieur Menocal, me permettez-vous d'intervenir ?
Je vous en prie, monsieur de Lesseps.
Le tracé que vous défendez par le Nicaragua est celui qu'ont choisi les autorités de votre pays. On l'a d'ailleurs baptisé la voie américaine, ce qui n'a rien pour me choquer en soi.
Je ne parle pas au nom des autorités américaines, je ne fais que rapporter les longues et patientes études conduites par le département de la marine depuis près de 40 ans.
Disons alors que votre gouvernement a eu la sagesse de s'en remettre à vos conclusions. Moi, Ferdinand de Lesseps, je parlerai ici, simplement, de mon expérience à Suez. À Suez, où le sol était friable, la chaleur écrasante. Nous en sommes venus à bout. Votre pays était alors engagé dans une tragique guerre civile. Sans doute n'avez-vous pas pu suivre de près nos travaux.
Monsieur de Lesseps, je maintiens que le creusement du canal... Je maintiens que le creusement du canal sera infiniment plus simple au Nicaragua.
Menocal, il faut le rappeler, est un ingénieur américain auquel s'oppose Lesseps. On est en 1879, je le rappelle. Mais déjà, se pose la question, on ne sait pas toujours que cela a été un débat si fort, savoir si on passerait par Panama ou par le Nicaragua.
Absolument. Il y avait un débat dans la mesure où le Nicaragua est plus proche de la frontière sud des États-Unis, donc il y avait une logique géographique éventuellement à creuser un canal, en utilisant le lac Nicaragua, c'est-à-dire en évitant une centaine de kilomètres de creusement du canal. Mais en même temps, il aurait quand même fallu creuser encore 100 autres kilomètres, par conséquent, pour avoir un canal qui aurait fait au total un peu plus de 200 kilomètres. En fait, la vraie question n'était pas là. C'est au fond le sol, la géologie du Nicaragua qui va jouer en sa défaveur.
Pourquoi ?
À cause des volcans. Et d'ailleurs, Philippe Bunovaria, l'ingénieur dont on vient de parler, va utiliser intelligemment en 1902 l'éruption de la montagne Pelée à la Martinique pour offrir à tous les parlementaires américains les timbres du Nicaragua qui montrent physiquement les volcans en train de cracher de la fumée. Et donc, d'une certaine manière, les Américains sont mis devant le danger de construire un canal dans une zone où il risque d'y avoir des éruptions volcaniques ou de choisir un canal certes plus éloigné au Panama, mais un canal qui ne présente pas les mêmes risques.
Le Nicaragua n'a pas cessé depuis lors, d'ailleurs, de rêver de l'éventualité de creuser un second canal jusqu'à la dictature d'aujourd'hui, jusqu'à Origa.
Mais absolument. Au début des années 2000, par deux fois, le Nicaragua, et y compris sa Chambre des députés, ont voté en faveur de projets chinois de creusement d'un canal. D'une certaine manière, le canal de Panama aurait été doublé par un canal du Nicaragua. En fait, les Panaméens vont répondre à ce défi en élargissant le canal et en faisant en sorte que désormais, eh bien, dans un canal agrandi, tous les bateaux, quel que soit le tonnage, puissent passer.
Alors, il faut en venir au moment où les États-Unis profitent de l'échec de Lesseps et de la France pour prendre la place et prendre le relais, en fait. Il y a eu un premier chantier français qui était un échec, et puis au début du XXe siècle, le chantier américain qui lui a réussi. Évoquons-le.
Alors, ça s'est fait en deux temps. Dans un premier temps, donc, la première entreprise de Ferdinand Lesseps a échoué. On est là en février 1889. Une nouvelle compagnie va être mise sur pied en 1894, une compagnie qui réunit au fond ceux qui n'avaient peut-être pas volé, mais en tout cas qui auraient beaucoup perdu à ce qu'il y ait des procès. Donc les entrepreneurs des travaux publics qui ont gagné de l'argent à Panama, les journaux et les journalistes qui ont touché de l'argent de la compagnie universelle, et les banques qui avaient réalisé des profits très importants, des super profits nous dirions aujourd'hui, ont été invités à mettre au pot commun de l'argent dans la compagnie nouvelle du canal interocéanique de Panama. Et cette compagnie, elle va durer 10 ans.
Il faut rappeler que si le Parlement avait été concerné, c'est parce que la première compagnie avait souhaité un emprunt à l'eau qui exigeait une autorisation parlementaire.
Oui, alors l'emprunt à l'eau, il existait en France depuis 1836. C'est un emprunt obligataire auquel on a ajouté une loterie nationale. Ça permet effectivement d'obtenir plus d'argent. L'emprunt à l'eau de 1888, s'il avait réussi, aurait rapporté 720 millions. 120 millions auraient été donnés aux heureux bénéficiaires des lots et 600 millions auraient abondé la compagnie. Ça n'a pas suffi, ça a été un échec.
Alors l'Amérique arrive.
Alors l'Amérique, elle arrive en 1904 en réalité. Et en 10 ans, elle va construire le canal. Mais entre-temps, de 1894 à 1904, il y a donc une compagnie nouvelle qui d'elle-même d'ailleurs, dès 1896, va faire appel au fond, aux financiers de Wall Street, à la banque Pierpont Morgan, la plus grande banque du monde. Et tout doucement, on va aller vers l'idée que seuls les Américains peuvent construire le canal et aboutir à ce que cette voie d'eau soit ouverte à la navigation internationale.
Dans l'intervalle, le chantier a stagné et ça repart effectivement en 1904.
Alors, il y a deux manières de le voir. De manière très négative, on pourrait dire que les Français n'ont rien fait. C'est très exagéré. Ils avaient évidemment commencé les travaux, y compris ils avaient commencé à dynamiter la montagne de la Culebra lorsqu'on arrive sur l'océan Pacifique. Mais ça n'avait pas suffi. Et puis surtout, la fièvre jaune n'avait pas été éradiquée et il fallait absolument commencer par vaincre les maladies afin de pouvoir travailler.
Alors comment ont travaillé les Américains? Ils ont installé une sorte de protectorat. Il y a un personnage tout à fait emblématique auquel vous prêtez attention, qui est George Washington Goethals.
Oui, comme le nom l'indique, il est belge d'origine, mais il est né aux États-Unis. C'est un ingénieur militaire des États-Unis. Dans ce grand corps du génie militaire de l'armée américaine, ce sont des ingénieurs habitués à travailler un peu partout sur la planète. Et c'est lui qui va militariser les travaux sur la zone du canal entre 1904 et 1914. Dans un premier temps, il est aidé par un autre ingénieur militaire qui, s'appuyant sur la découverte des médecins cubains, qui savent désormais que c'est le moustique qui est le vecteur de la fièvre jaune, pendant un an et demi à deux ans, ils vont balancer, je vais dire, des tonnes et des tonnes de pétrole partout pour faire disparaître cette maladie. Et une fois que la maladie est stoppée, eh bien, les ouvriers venus de toute la Caraïbe vont pouvoir lancer le chantier.
Ce sont eux qui sont les vrais constructeurs du chantier. De fait, Goethals a tendance à installer là une ségrégation entre les Blancs et les Noirs qui n'est pas sans rappeler celle de l'Amérique d'antan.
Voilà, c'est le deuxième aspect. Cet ingénieur va instaurer une ségrégation raciale exactement comme elle existe aux États-Unis, mais surtout dans le sud des États-Unis. Il va faire une distinction entre les gold employés et les silver employés. Les employés en or, eh bien, ils viennent des États-Unis. Quel que soit le corps de métier, ils sont très bien payés en dollars or américains. Quant aux silver employés, qui appartiennent à 66 nationalités, ils viennent de tout le bassin de la Caraïbe, mais également ils viennent de Cuba, ils viennent d'Espagne, ils viennent d'Italie, ils viennent de France, ils viennent d'Inde, ils viennent de Chine, ils viennent d'Afrique. On est venu de partout dans le monde pour travailler, exactement comme on s'était rué en Californie pour trouver de l'or. Parce que, d'une certaine manière, le chantier du Panama, c'est de l'or, c'est du travail donné à des gens qui n'en ont pas.
C'est un résumé d'humanité.
D'une certaine manière, mais qui a son corollaire, cette ségrégation terrible qui fait que les travailleurs vont vivre dans des conditions très misérables. Mais attention, misérables par rapport aux gold employés, mais le salaire misérable qu'on leur donne est supérieur à celui qu'ils auraient touché dans leur propre pays.
Le problème sanitaire que vous évoquez est essentiel. Au début, beaucoup d'ingénieurs français d'ailleurs sont morts de la fièvre jaune et beaucoup de ceux qui sont venus d'Europe. Écoutez donc ce reportage de Marc de Banville, qui est un historien qui était établi à Panama City, et qui est diffusé sur France Inter le 16 février 2003. Il évoque, vous allez voir, la fièvre jaune, des fourmis et des moustiques.
Alors là, on est sur un groupe de trois petites îles, Naos, Perico et Flamenco, qui sont à l'autre bout de la baie de Panama. La mer est assez propre, tout est calme parce que justement c'est bien protégé des courants. Et puis ici, on voit passer régulièrement tous les bateaux qui rentrent, qui sortent du canal. C'est un peu un appel au voyage, c'est un peu un endroit magique où on vient le soir, on regarde de loin la silhouette du pont des Amériques qui se découpe sur le coucher du soleil. C'est un endroit où viennent les amoureux pour se faire des grandes déclarations. C'est un endroit magique. Et là, on est juste en face d'une grande île qui s'appelle Taboga, avec sa petite sœur à côté qui s'appelle Taboguilla. Et c'est sur cette île que les Américains, d'abord, au moment de la construction du chemin de fer, ont construit un petit sanatorium. Pourquoi ? Parce que quand leurs employés attrapaient la fièvre, eh bien, ils préféraient les éloigner un petit peu. Et donc, ils pensaient que l'air marin était très bon pour leur cas. Et donc, ils avaient construit un petit sanatorium sur cette île. et les Français, dès qu'ils ont eu racheté la compagnie du chemin de fer, et ben ils ont modernisé, étendu un peu ce sanatorium. Ils l'ont utilisé aussi pour leurs propres employés qui, eux aussi, souffraient des fièvres. Fièvre jaune et malaria. Il faut savoir qu'à l'époque, personne ne savait que le moustique était celui qui transmettait les fièvres. Et en général, la théorie la plus admise à ce moment-là, c'était que ça pouvait être les fourmis. Donc, pour protéger ça des fourmis, les Français qui avaient installé des hôpitaux absolument merveilleux, et plein de fontaines et d'endroits pleins d'eau, ce qui était génial pour pouvoir élever les moustiques, justement, eh bien, ils avaient décidé de protéger leurs malades des fourmis. Et donc, à chaque pied de lit, ils avaient rajouté une petite coupelle d'eau qui empêchait les fourmis de monter sur le lit. Mais évidemment, ça n'empêchait pas du tout les moustiques de s'y reproduire. Et donc, les hôpitaux étaient en eux-mêmes des foyers de dispersion de la maladie. Et en fait, ce n'est que beaucoup plus tard que les Américains ont fini par être convaincus des découvertes d'un médecin cubain, Dr. Finlay, et qu'ils ont fini par être convaincus qu'effectivement, c'était le moustique qui était le vecteur de la fièvre jaune.
C'est au tout début du siècle, en 1902, qu'un médecin américain découvre en effet qu'il vaut mieux ne pas préférer les moustiques aux fourmis.
En s'appuyant sur les travaux de médecins cubains, il faut leur rendre hommage. C'est eux qui ont véritablement compris que la fièvre jaune se développait grâce aux moustiques qui étaient le vecteur. Mais ce sont les épidémiologistes américains qui ont utilisé effectivement cette découverte scientifique pour vaincre la malaria en utilisant essentiellement le pétrole et puis des pesticides.
Cette première décennie, Jean-Yves Mollier, du XXe siècle, est celle où l'autorité américaine s'installe avec le pouvoir politique, avec l'arrivée des touristes. C'est l'époque où le président Theodore Roosevelt, en novembre 1908, vient à Panama et dit aux bâtisseurs qui l'entourent « Vous accomplissez une des œuvres les plus remarquables du monde ». Et il avait confié à la presse cette confidence, immédiatement reproduite dans les médias. « Je suis devenu un plus grand Américain, un meilleur Américain, pour avoir vu ici, dans cet isthme, à l'œuvre, le génie de l'humanité américaine. » On a presque l'impression que cette phrase pourrait être prononcée aujourd'hui par je ne sais quel président.
Oui, absolument. Donald Trump pourrait la reprendre à son compte.
Vous l'avez reconnu.
Absolument. Ce sont presque les mêmes mots. Mais de toute façon, et on y viendra tout à l'heure, il y a évidemment une mémoire du Parti républicain américain par rapport au canal de Panama. Ça n'est pas étonnant si Donald Trump reprend les propos de Reagan et si Reagan reprend les propos de Theodore Roosevelt. Il y a un continuum, effectivement, qui va du début du XXe siècle jusqu'au début du XXIe. Mais pour en revenir à Theodore Roosevelt, il a été vraiment le champion de la construction du canal de Panama. Il l'a voulu. Le président McKinley ayant été assassiné, Theodore Roosevelt lui a succédé.
McKinley si cher à Donald Trump.
Absolument. Et il a ensuite été élu lui-même. Donc pendant une assez longue période, il a pu véritablement superviser les travaux. C'est lui qui a confié le creusement du canal aux ingénieurs du génie militaire des États-Unis. Au fond, il n'avait pas confiance, ou il n'avait qu'une confiance relative dans les entreprises privées. Au tout début, en 1904, ce sont des entreprises privées qui avaient commencé à travailler. Mais très vite, eh bien, on est passé à la supervision des militaires, parce que les militaires savent travailler dans l'ordre. Ce sont d'excellents logisticiens, quelles que soient les armées d'ailleurs concernées, États-Unis ou autres, et ils ont su, grâce à leur discipline de fer, il faut bien le dire, faire en sorte que les travaux avancent véritablement. Alors qu'à l'époque de l'ESSEPS, non seulement il y avait les problèmes sanitaires, mais il y avait des problèmes avec les entreprises. Une entreprise restait 6 mois, elle renonçait, il fallait faire appel à une autre entreprise. Il n'y avait pas d'obstacle, je dirais, technologique au sens où on avait le matériel pour creuser le canal. Mais la nature, elle est beaucoup plus luxuriante au Panama qu'elle ne l'était à Suez. Il a fallu déblayer des tonnes et des tonnes de jungle. Il y avait des animaux qui, effectivement, s'en prenaient aux travailleurs. Il y avait des risques avec les reptiles, très nombreux dans cette zone. Et puis, il y avait la saison des pluies, très importante. Pendant une partie de l'année, il pleut dans cette zone et c'est très difficile de travailler.
Je signale, titre anecdotique, puisque j'évoquais le couvre-chef du Panama, que c'est Roosevelt qui, à ce moment-là, le porte et qui lance la mode. Mais nous pouvons passer vite sur ce point, si vous voulez bien.
Oui, encore que le chapeau de Panama, il est en réalité fabriqué en Équateur avec de la paille tressée, mais tout le monde est persuadé, depuis cette époque, qu'il s'agit bien de chapeaux venant du Panama.
Quoi qu'il en soit, c'est évidemment cette décennie, c'est le moment fondateur de l'autorité des États-Unis jusqu'aujourd'hui sur ce canal. Et je voudrais que vous nous aidiez à retracer les étapes successives qui ont marqué cette chronique avec des moments de domination plus fortes, plus franches, plus avouées, et d'autres où au contraire le pouvoir politique américain a accepté de prendre un peu de distance par rapport à son emprise sur le canal.
On peut repartir au fond de 1898. Les États-Unis remplacent l'Espagne dans tout le bassin des Caraïbes. Ils s'installent à Porto Rico, ils s'installent à Cuba. Et à partir de là, ils vont s'installer également en Haïti un peu plus tard. Ils vont considérer qu'au fond, cette zone, c'est leur zone naturelle. C'est la doctrine Monroe.
C'était le grand président des années 1820 qui avait parlé.
Exactement, James Monroe.
Big Stick. On est entre le gourdin et la diplomatie du dollar.
Le Big Stick, c'est vraiment la politique de Theodore Roosevelt. Hein. C'est lui qui l'a utilisé. Il s'est battu à Cuba. Il est devenu un peu le symbole, au fond, et la fierté d'un certain nombre d'Américains. Alors, deuxième étape, 1902, les États-Unis renoncent définitivement au tracé sur le Nicaragua. Mais ils vont s'installer au Nicaragua et ils vont demeurer les maîtres de cette zone. Mais c'est à partir de 1902 que les États-Unis acceptent de prendre le relais des Français. Ce sont leurs financiers qui suggèrent au gouvernement américain de prendre ce relais. C'est fait en 1903, les traités sont signés et c'est en 1903 qu'à Panama, une sécession va être organisée, un véritable coup d'État. Un coup d'État, on est dans un coup d'État d'opérette. Les navires américains sont dans la baie de Colonne, hein, dans la mer des Caraïbes. Ils sont également présents sur la côte pacifique. L'argent est venu de France. Je retrace dans mon livre tout le circuit bancaire. J'ai retrouvé les banques. L'argent part du Crédit Lyonnais. Il passe par Bruxelles. Il va ensuite à New York. Et de New York, il arrive à Panama dans la banque créée par le consul des États-Unis. Donc, c'est un coup d'État d'opérette. Ça veut dire que...
Mais la séparation, elle est à partir de la Colombie. Nous en reviendrons dans un moment. On arrache la zone de Panama à la République de Colombie.
Exactement, parce qu'on a oublié aujourd'hui que la Colombie était propriétaire. Le Panama, c'était un État à l'intérieur des États-Unis de Colombie jusqu'en 1886. Puis, la Constitution ayant été rectifiée, c'est devenu un département. C'est donc bien un département de la Colombie qui a été arraché par un coup d'État d'opérette, hein, le 3 novembre 1903.
Au nord-ouest de la Colombie, votre livre est enrichi de cartes qui sont tout à fait explicites à cet égard.
Absolument.
Panama constitue une sorte une excroissance vers le nord-ouest de la Colombie.
Exactement. Et puis, pour ajouter du piment, au fond, à ce coup d'État que j'appelle d'opérette, eh bien, c'est un ingénieur français dont on a déjà parlé, Philippe Buneau-Varia, polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, donc brillantissime, qui avait travaillé avec Ferdinand de Lesseps sur la zone du canal, qui a voulu ensuite retravailler, mais qui a plutôt été l'artisan avec ce qu'on a appelé aux États-Unis le syndicat de Wall Street, du passage d'une compagnie française à une compagnie américaine. Et c'est lui qui, au lendemain du coup d'État, est nommé ambassadeur de la República de Panama à Washington, aux États-Unis. Et c'est lui qui va signer le traité Hay-Buneau-Varia, qui abandonne, je vais dire, aux États-Unis à perpétuité la domination sur une zone énorme, 77 km de long, 8 km de large.
Enfin, énorme, mais néanmoins, géographiquement, il faut bien rappeler que c'est une zone assez limitée en termes de dimension.
Oui, mais les Français, avec les Seps, n'avaient demandé que 200 mètres de chaque côté.
Combien au total Panama aujourd'hui ?
Alors, c'est un petit État, 175 000 km². C'est un État relativement modeste du point de vue du territoire.
Combien d'habitants ?
Aujourd'hui, on est à 4 500 000. À l'époque, on n'était même pas à 1 million. On était à quelques centaines de milliers d'habitants. Et même en 1945, on était encore autour d'un million d'habitants. Donc la croissance, elle est venue bien après.
Alors, rappelez-nous les étapes au long du XXe siècle de cette... évolution de l'idée de perpétuité, avec un certain allègement pendant un certain temps de l'emprise américaine sur le canal de Suez. De l'emprise américaine sur le canal de Panama.
Je reviens légèrement en arrière. En 1903, le Congrès de la République de Colombie a refusé le traité que les États-Unis leur proposaient et qui aurait accordé la concession pour 100 ans. La Colombie a cru bien faire en refusant de signer un tel traité. Mais en réalité, ils y ont beaucoup perdu. Non seulement on leur a arraché un département, mais on est passé de l'idée d'une concession centenaire à l'idée d'une concession à perpétuité. C'est de nouveau Philippe Bunau-Varilla qui a introduit cette notion de perpétuité. Alors, après 1904, les gouvernements successifs de la République de Panama n'auront de cesse que de renégocier ce traité. Mais globalement, c'est après la Deuxième Guerre mondiale que les choses vont évoluer. Alors, il faut rappeler qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont installé également dans cette zone l'école des Amériques, la fameuse école de la contre-révolution. C'est là qu'ont été formés tous les contras de tous les pays d'Amérique latine.
Les contras.
Les contras, c'est aussi bien ceux qui vont réaliser le coup d'État avec Pinochet en 1973 au Chili, mais également en Bolivie, en Argentine, un peu partout. C'était une école de la contre-révolution.
Alors, écoutez donc ce reportage télévisé sur la renégociation du traité de 1903 que vous évoquiez un instant, Jean-Yves Mollier, avec évidemment des inquiétudes américaines. C'est une émission de TF1 le 14 août 1977.
Sans doute les drapeaux américains et panaméens flottent-ils déjà côte à côte sur les bâtiments officiels de la zone du canal depuis une douzaine d'années. Sans doute les grillages qui séparaient autrefois la zone du territoire panaméen ont-ils presque tous disparu. Mais la souveraineté théorique de la République de Panama est restée jusqu'ici celle d'un nu propriétaire sur cette fameuse zone où, depuis pour ainsi dire toujours, l'autorité suprême appartient au gouverneur nommé par Washington, où les Américains appliquent à tous leurs propres lois, où ils font circuler leurs trains sur la ligne la plus importante du pays, le long du canal qu'ils administrent de façon discrétionnaire. Alors, même si la déclaration commune Taft-Kissinger de 1974 préparait déjà le terrain, lorsqu'au lendemain de son entrée en fonction en janvier dernier, le président Carter annonce sa ferme intention de négocier au plus tôt un nouveau traité abrogeant celui de 1903, dans le petit monde colonial de la zone américaine, on s'inquiète. On sait que le concept de perpétuité est désormais écarté et que progressivement, la zone devra revenir sous juridiction panaméenne. En attendant, les habitants de la zone, les zoniens comme on dit, ont quelque peu perdu de leur assurance.
What do they feel? Well, it's a normal feeling, I'd say, you know, that we did build a canal down here. It was great engineering.
On a peine à imaginer à venir, et c'est bien normal. C'est nous qui avons construit ce canal, et cela a été une entreprise formidable. Naturellement, c'est difficile d'abandonner tout cela, qui a coûté tant d'efforts.
Écoutons la voix, c'est justice, de Jimmy Carter en septembre 1977, qui justifie cet allègement de l'emprise des Américains sur la zone de Panama dont nous parlons ce matin.
We are here to participate.
Nous sommes ici pour signer des traités qui assureront un avenir prospère et pacifique à une des plus importantes voies navigables internationales. Mais ces traités signifient plus encore. Ils marquent la volonté des États-Unis de faire en sorte que le bon esprit et la non-violence déterminent notre relation avec le monde.
Cette opposition, Jean-Yves Mollier, entre Reagan d'un côté et Carter de l'autre, reste fortement symbolique avec le recul.
Oui, bien sûr, puisque Trump, président républicain, reprend en quelque sorte les idées des présidents républicains qui l'ont précédé. Mais pour signer un traité, il faut être deux. Donc là, on vient de rendre hommage à juste titre à Jimmy Carter, président démocrate des États-Unis, mais il faut rendre hommage à son alter ego panaméen, c'est-à-dire le général Omar Torrijos, qui a été véritablement l'artisan du retour, en quelque sorte, du canal à la nation panaméenne. Alors ça s'est fait en plusieurs temps. Kennedy avait essayé d'assouplir la législation en invitant d'ailleurs, à mettre les deux drapeaux à égalité sur la zone du canal, même si elle était encore américaine. Et on voyait régulièrement des étudiants panaméens envahir la zone américaine et malheureusement se faire tirer dessus et donc mourir pour, en quelque sorte, rappeler que cette zone était bel et bien panaméenne. Avec Torrijos, les choses sont allées infiniment plus loin puisque les États-Unis ont accepté d'abandonner l'idée de perpétuité et en prenant 20 ans pour permettre de mettre à égalité les deux législations. L'idée était donc dans ce traité de 1977 qu'en 1999, le Panama retrouverait sa souveraineté pleine et entière. C'est celle qu'aujourd'hui Trump remet en cause en oubliant que le traité Carter-Torrijos, il a été approuvé par le Congrès des États-Unis.
À l'époque, le Congrès des États-Unis avait une grande importance politique.
C'est vrai, plus qu'aujourd'hui. Mais d'un point de vue juridique, du point de vue des traités internationaux, il n'y a aucun doute que le canal appartient à la République de Panama.
Le régime de Panama, il faut en dire un mot, démocratique ou caudillo?
Alors, tout dépend de ce qu'on appelle démocratie. Évidemment, le caudillisme était là. Au fond, il y avait deux grands partis qui se succédaient au Panama, les libéraux et les conservateurs, mais il n'y avait pas une énorme différence, si ce n'est que les libéraux étaient plus sensibles quand même à l'intégration des Noirs, on va le dire comme ça, dans la nation panaméenne, alors que les conservateurs, au nom de la supériorité de la, entre guillemets, race latine, considérait que l'apport des Antillais était quelque chose qui allait, d'une certaine manière, corrompre la race latine. Bon, tout ça nous paraît complètement absurde aujourd'hui, mais c'est vrai que dans les années 1904 à 1960 à peu près, ces idées étaient encore présentes au Panama.
Vous parlez des Noirs, c'est le moment, Jean-Yves Mollier, d'en venir à une autre mémoire qui est beaucoup plus douloureuse, qui est celle des Antillais qui ont construit le canal.
Si vous me permettez, on va d'ailleurs utiliser deux termes. Pour les habitants des États-Unis, on parle aujourd'hui d'Afro-Américains, en anglais bien sûr. Et pour les habitants de l'Amérique latine, on parle d'Afro-descendants. Et j'aime bien ces deux termes au fond, Afro-Américains ou Afro-descendants. Il s'agit bien effectivement de gens qui, à l'origine, viennent d'Afrique.
En 2008, un hommage a été rendu aux travailleurs antillais qui ont contribué à construire et à entretenir le canal de Suez. On va entendre Victorin Lurel, qui était président du conseil régional de Guadeloupe et qui est venu à cette occasion à Panama.
Ils étaient les travailleurs de l'oubli, les centaines d'ouvriers antillais morts lors de la construction du canal de Panama. Une stèle leur rend désormais hommage sur le site.
Elle symbolise les liens qui unissent la Guadeloupe et le Panama. C'est le résultat de la persévérance des membres de cette association qui se bat pour la préservation de l'identité antillaise au Panama et dont le président du conseil régional est prêt à aider pour maintenir les liens avec la Guadeloupe.
Nous sommes prêts à venir, à faire venir des groupes, à faire venir des musiciens, à faire venir des artistes.
La petite communauté antillaise du Panama attendait depuis fort longtemps ce moment. Pour elle, cette stèle marque la reconnaissance du rôle joué par leurs ascendants dans l'histoire de ce canal.
Pour moi, c'est un honneur de vous présenter ici aujourd'hui parce que c'est une grande histoire de mon famille, votre famille, et de la peuple de Martinique et Guadeloupe pour la construction du canal de Panama.
Une seconde stèle, toujours à la mémoire des Guadeloupéens, a été également érigée sur la deuxième écluse du canal, celle de Miraflores, qui reçoit quotidiennement des milliers de visiteurs. Et pour compléter ce travail de reconnaissance, le conseil régional a prévu de marquer également la présence guadeloupéenne dans ce cimetière de Paraíso, entretenu par l'ambassade de France et qui est un monument historique national.
Vous citez Jean-Yves Mollier dans votre ouvrage sur le canal de Panama, qui est au fondement de notre émission de ce matin. Vous citez un certain nombre de témoignages de ces Antillais venus attirés par l'idée d'une sorte d'Eldorado jusqu'à Panama et qui ont été évidemment très déçus. Je cite l'un d'entre eux qui écrit à sa famille ceci. « J'ai tant de regrets d'avoir quitté ma très belle Guadeloupe. Je maudis le jour où j'ai quitté mon pays natal. Ici, c'est l'enfer. » Que mes compatriotes se servent de mon expérience pour bien réfléchir avant de partir. Nous nous sommes trompés, ils nous ont trompés. À la prochaine lettre, je vous raconterai des choses qui vous bouleverseront. Fin de citation. Est-ce que c'est vraiment le bagne tropical qui est...
Alors, j'ai trouvé beaucoup de lettres, qui, à la fois dans les archives américaines, dans les archives françaises, on trouve énormément de témoignages où effectivement les Martiniquais, les Guadeloupéens, mais aussi... côté anglophone, les Jamaïcains, les Barbadiens, qui sont venus encore plus nombreux que les Antillais francophones, on trouve de nombreux témoignages qui se plaignent des conditions très dures de travail, qui se plaignent de la ségrégation, du fait qu'on ne respecte pas l'égalité entre les Noirs et entre les Blancs, alors que dans toutes les Antilles, aussi bien françaises que britanniques, cette égalité, elle existe. Il n'y a plus de ségrégation dans les Antilles. C'est vraiment aux États-Unis que cette ségrégation existe et elle est transplantée.
Les Américains jouent d'ailleurs souvent de l'opposition de tel ou tel ouvrier venant de tel ou tel endroit. Les Jamaïcains, par exemple, qui sont anglophones, sont considérés souvent comme oppresseurs par les francophones venus des Antilles.
Oui, parce que les Jamaïcains, qui parlent parfaitement l'anglais, considèrent que les francophones sont incapables de comprendre les ordres transmis par les contremaîtres et ils se moquent d'eux, ou même ils considèrent que tout le travail devrait être laissé aux anglophones, d'une certaine manière. Mais je voudrais revenir un peu en arrière sur ces conditions de travail.
Oui.
Je l'ai dit dès le départ, du point de vue du salaire qu'ils retirent, il est supérieur à ce qu'ils auraient eu incontestablement dans leur île d'origine. Mais en même temps, ils voient bien que leurs compagnons de travail blancs sont beaucoup mieux payés, hein, je le répète, en dollars américains, en or. Alors que eux, puis par ailleurs, les bars sont séparés. Si vous êtes noir, vous avez des bars dans lesquels vous pouvez aller qui sont réservés aux afro-descendants ou aux afro-américains.
Ségrégation importée.
Ségrégation importée. Dans les magasins, il y a une ligne de démarcation que vous ne pouvez pas franchir. Sinon, c'est la prison immédiatement.
Comme au sud des États-Unis.
Sud des États-Unis. Et je pousserai le parallèle encore plus loin parce que sur les photographies, on voit que c'est la tenue rayée des bagnes américains qui est imposée dans la zone du canal par les Américains. Alors, sans exagérer, sans en faire une sorte de bagne ou d'enfer dantesque, les conditions de travail sont extrêmement dures, d'où la revendication, effectivement, de ces populations d'obtenir de meilleures conditions de travail et puis ensuite de récupérer la zone du canal.
J'ai annoncé que nous parlerions d'une autre mémoire, celle des Colombiens, celle de la Colombie d'un côté et du Nicaragua de l'autre. Je voudrais que, Jean-Yves Mollier, que vous nous en disiez davantage. C'est vraiment une histoire traumatique vue depuis Bogota.
Oui, vue depuis Bogota, c'est un vol. D'ailleurs, en espagnol, il l'appelle el rapto.
Le rapt.
Le rapt, le kidnapping, le vol, hein, le hold-up. On peut utiliser tous les synonymes que l'on veut. En effet, nous l'avons dit tout à l'heure, le coup d'État n'est pas un véritable coup d'État organisé par des patriotes qui auraient représenté l'opinion panaméenne. C'est un groupe d'hommes qui ont été payés pour organiser la sécession. Alors faisons bien attention quand même. La conscience panaméenne, elle va venir avec le temps. Dès la Première Guerre mondiale, elle existe, mais antérieurement, elle n'existait pas. Alors vu de la Colombie, c'est un rapt et ça explique que pendant très longtemps, peut-être jusqu'à aujourd'hui, le gringo, celui qui vient des États-Unis, on l'appelle d'ailleurs souvent le Yankee, qu'on écrit Yanki, hein, on ne l'écrit pas avec la graphie anglaise, parce que précisément, on le met en quelque sorte à l'espagnol. Hein, c'est un mélange. C'est intéressant de ce point de vue-là, de regarder la linguistique. Elle dit quelque chose du sentiment des populations et de la grande méfiance envers l'habitant des États-Unis qui représente non pas le mal absolu, parce que on peut en même temps avoir envie d'immigrer, d'aller travailler aux États-Unis, mais qui représente à un moment donné de l'histoire un pouvoir qui s'est installé par la force ou par la ruse.
Il faut aussi évoquer la puissance de la fameuse United Fruit Company que évoque notamment le grand écrivain Garcia Marquez dans 100 ans de solitude.
Bien sûr. Et cette compagnie, elle est installée dans tout le bassin de la Caraïbe. Elle est installée au Nicaragua, elle est installée au Costa Rica, elle est installée à Cuba et un peu partout. Mais elle est là, bien présente à Panama, et elle possède énormément de terres. Alors pas dans la région du canal, mais plus à l'ouest de la République de Panama. D'ailleurs, l'entreprise de construction du canal achète tous ses fruits et ses légumes à la United Fruit Company. On voit bien, là encore, l'aberration qui consiste à faire venir de plusieurs centaines de kilomètres quelque chose qu'on aurait pu trouver sur place. Mais on est là, au fond, dans la vision américaine. La médecine latino-américaine ne peut pas être une médecine convenable. L'agriculture latino-américaine ne peut pas être une agriculture convenable. Il faut tout faire venir des États-Unis. Alors ça peut se comprendre au niveau des locomotives, au niveau des excavatrices, mais c'est ridicule quand il s'agit de nourriture. Et pourtant, telle était la réalité.
L'histoire du canal n'est pas moins importante du côté du Nicaragua. Elle contribue à cimenter en fait le sentiment national dans ce pays.
Ben, le Nicaragua, il a été un peu le dindon de la farce pendant un siècle. Au départ, il espérait, compte tenu de sa proximité géographique, être le lieu qui serait choisi pour construire une voie d'eau qui relierait les deux océans.
Il n'y a que le Costa Rica, en somme, entre Panama et le Nicaragua, au nord-ouest.
Absolument. Le Nicaragua n'a jamais renoncé à son ambition de voir un jour un canal être creusé.
L'idée revient très souvent.
L'idée est revenue très souvent pendant le XXe siècle et elle a failli se réaliser au début du XXIe siècle, c'est-à-dire à un moment où le canal de Panama était victime du fait qu'il ne correspondait plus à la circulation des supertankers, donc les énormes pétroliers, et des porte-containers. Et ce n'est qu'en 2016
qu'on a fait des travaux.
Que les travaux qui ont été commencés 10 ans auparavant ont abouti. Depuis 2016, les énormes bateaux, les porte-containers, les super porte-containers, peuvent circuler très facilement. Mais dans cette période, le Nicaragua avait espéré, grâce aux entrepreneurs chinois, pouvoir créer une deuxième voie qui aurait été plus large et qui aurait permis, effectivement, de ruiner, en quelque sorte, la voie de navigation du Panama.
Le canal reste au Nicaragua très, très présent dans l'imaginaire populaire, quelle que soit l'évolution du régime, puisque le sandinisme au Nicaragua est passé de l'extrême gauche à une dictature aujourd'hui très, très cruelle et très dure. Mais le canal reste toujours présent.
Oui, et aujourd'hui, dans la mémoire officielle des sandinistes, le général Sandino, le général des hommes libres,
qui avait été assassiné.
Oui, le général prolétaire, même selon certains historiens, entre guillemets, sandinistes. Assassiné dans les années 30. Sandino, d'une certaine manière, a été récupéré par le mouvement sandiniste pour en faire un de ceux qui auraient été les pionniers du canal. Ça n'est pas totalement faux, puisqu'on trouve bien des déclarations, on trouve bien des textes d'Augusto César Sandino favorable à la construction d'un canal. Mais il ne s'est pas fait à l'époque. Alors Sandino lui-même, il a été assassiné au moment où il s'était rallié en quelque sorte à l'idée d'une paix avec le régime et il a été attiré dans un piège et il a été assassiné. On n'a jamais retrouvé son cadavre.
Et quand on entend les propos conquérant de Donald Trump, on ne peut pas oublier que le canal de Panama, Jean-Yves Mollier, a une grande importance économique aussi. Nous n'en avons guère parlé jusqu'à présent.
Oui, depuis la mise à niveau de 2016, le canal laisse passer d'énormes porte-containers qui peuvent, pour les plus gros, transporter 15 000 à 16 000 conteneurs. Le plus gros qui est passé l'année dernière a payé plus $1 million de taxes. Au total, c'est entre 4 et 5 milliards de dollars qui rentrent dans les caisses de l'entreprise et 3 milliards qui sont reversés au trésor panaméen. Ça permet donc à l'État du Panama d'utiliser cet argent pour construire des écoles, des hôpitaux, faire tout ce que fait un État.
Mais Trump, qui n'est pas indifférent à des deals, comme on sait, comme il dit, ne peut pas être insensible à cette richesse-là, qui peut contribuer éventuellement à aiguiser sa convoitise.
Et puis surtout, Trump voudrait que les taxes soient fortement abaissées pour les navires battant pavillon américain.
Ben voyons.
Il voudrait déjà que les navires de guerre des États-Unis ne payent pas de taxes et que les bateaux commerciaux payent les taxes les moins importantes possibles parce qu'on est là au cœur du problème. Entre 1914 et 1977, voire 1999, les taxes n'étaient pas très élevées et rapportaient finalement très peu. Mais les Américains étant propriétaires du canal acceptaient de ne pas gagner tellement d'argent parce que tout simplement leur navigation était facilitée. Et en même temps, ils ont économisé les chiffres que je cite. Les économistes considèrent que dans la moitié du XXe siècle, ils ont probablement économisé entre 30 et 50 milliards de dollars. Donc c'est considérable. On comprend bien pourquoi Trump, effectivement, revient sur la question aujourd'hui.
Un dernier mot, alors, si vous voulez bien, Jean-Yves Mollier, sur la nation panaméenne aujourd'hui, qui vous l'avez montré, le fruit d'un brassage de population du monde entier. Panama, en tant que pays en face de l'ogre américain, existe-t-il ?
Oui. Et il l'a prouvé, je dirais, très récemment, en 2016, lorsque les travaux d'agrandissement ont permis effectivement à ces énormes porte-containers de passé, on les appelle des Panamax d'ailleurs. Là, on a vu la liesse populaire, hein, le lâcher de ballon, la joie qui se lit sur les visages quand on regarde les reportages de la télévision. Et puis à nouveau, en 2025, lorsque Donald Trump a affirmé qu'il voulait reprendre le canal, on a vu et de nouveau les Panaméens sortir dans la rue et montrer qu'effectivement, je vais citer Victor Hugo, « Hier, vous n'étiez qu'une foule, vous êtes un peuple aujourd'hui ». Je crois qu'on peut tout à fait appliquer aux Panaméens ces deux vers de Victor Hugo.
Eh bien, je ne déteste pas, franchement, Jean-Yves Mollier, que nous terminions notre conversation en citant l'immense Victor Hugo. Vous avez publié donc ce livre précieux qui s'appelle Panama et qui vient de sortir. Panama, un canal pour mémoire. La mémoire a été très présente dans notre émission, parue chez Flammarion tout récemment. Et vous aviez publié, voici 4 ans, Jean-Yves Mollier, une biographie de Cornelius Hertz, ce lobbyiste franco-américain dont nous parlions tout à l'heure, qui a contribué d'ailleurs au financement du journal de Clémenceau, même si la probité personnelle de Clémenceau n'a jamais été en cause. Vous avez considéré à titre principal le scandale de Panama dans un de vos premiers livres, Fayard, 1991. Et puis d'autre part, je voudrais, puisque nous parlons canal ou canot, je voudrais rendre hommage au livre de Robert Solé qui s'appelle Suez, consacré à Suez, histoire d'un canal à la croisée des mondes, Perrin 2024. Et enfin, nous avons donné à entendre Marc de Banville. Qui était-il ?
Marc de Banville a fait un très beau livre sur le canal de Panama. Et puis, si on veut lui rendre hommage, parce qu'il est décédé aujourd'hui, on va rappeler qu'il a essayé de faire un mémorial en l'honneur des ouvriers qui ont construit le canal.
En plus de la stèle que nous évoquions tout
à
l'heure.
Ah oui, son ambition, c'était de retrouver le nom et même, si possible, la photographie de chacun de ces travailleurs. Il en a retrouvé plusieurs centaines, même plusieurs milliers. Il y a un site qui permet de les retrouver aujourd'hui.
Très bien, hommage à Marc de Banville. Vous pourrez retrouver, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, une bibliographie plus complète sur notre site avec, vous le savez, la référence des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter, podcaster cette émission qui est maintenant disponible de diverses façons. Et bien sur le fond d'une chanson qui s'intitule « Panama », des Lecuona Cuban Boys, 1935. Je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée aujourd'hui pour notre bonheur par Camille Matty, avec Yann Fressy à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Clary Monac pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Caballero la con arrollando, tú, nahue, yeah.